années, dans quelques semaines peut-être, nous aurons à Québec un ministre de l'Éducation. Les francs-maçons auront alors gagné une autre manche. Nos enfants seront étatisés plus que jamais. Les parents disparaîtront dans les coulisses. Ils pourront toujours dire, les parents, qu'ils sont en compagnie des évêques dans les coulisses, si ça peut les consoler de perdre leurs enfants. L'Église est trop encombrante dans l'enseignement, on dit les laïcistes. Il y a trop d'évêques au Conseil de l'instruction publique. Le ministre, tout seul, les remplacerait avantageusement. L'heure est venue de la promotion des laïcs. Continue les laïcistes. Remarquez bien que ce n'est pas moi qui dis ça. Oh, les évêques ne seront pas repoussés tout de suite par le ministre de l'Éducation. Ça paraîtrait trop mal. On les reléguera pour un temps au troisième plan, c'est-à-dire que les évêques pourront nommer leurs représentants qui formeront un comité de consultation. Et le dit comité de consultation ne sera justement que consulté par le ministre de l'Éducation. Le ministre ne sera pas obligé de se soumettre au bon conseil des représentants des évêques. Et le ministre ne sera pas gêné par les évêques puisqu'il n'aura pas besoin de les rencontrer. Il ne rencontrera que leur ombrage. Peut-être que j'irai la joie, qui sera le premier choisi comme ministre de l'Éducation, peut-être qu'il restera déférent envers les évêques. Mais les futurs ministres de l'Éducation auront tout loisir de gouverner l'enseignement comme des athées, l'Église catholique étant classée au musée des vieilles reliques des écoles de Nouvelle-France. Et voilà, les francs-maçons de la loge de l'émancipation, fondée à Montréal en 1910, auront gagné leur point principal, celui d'obtenir un ministère de l'instruction publique pour la province de Québec, afin de faire disparaître l'influence des parents et de l'Église sur les enfants en enrôlant les petits et les adolescents dans les écoles de l'État. Mais il y a des bonnes gens tout de même, aujourd'hui, jusque des saintes religieuses, qui disent, vous savez, il faut bien se mettre à la page, il faut évoluer. Un ministère de l'Éducation, mais c'est nécessaire. Et ce ne sera pas dangereux avec les garanties qu'on nous offre aujourd'hui. Des garanties? Lesquelles, ma sœur? Mais nous avons de si bons hommes à Québec, dit-elle. Cette réflexion-là, mes amis, je l'ai entendue de mes oreilles. Et voici que ce sont les religieuses maintenant qui parlent comme les francs-maçons de 1910. Où sommes-nous rendus? Comme à Cuba, bien sûr, où la révolution communiste fut faite avec l'appui enthousiaste des mouvements d'action catholique derrière le communiste Fidel Castro. En France, mes amis, depuis la révolution de 1789, les écoles sont demeurées sous le contrôle de l'État. Mais Napoléon Ier avait fait un concordat avec l'Église. Ce concordat laissait toute liberté aux religieux d'enseigner comme les laïcs dans les écoles de l'État. Et les religieux enseignaient la religion librement. Le concordat de Napoléon, c'était une garantie, comme les garanties qu'on nous promet à Québec aujourd'hui. Et Napoléon devait être considéré comme un si bon empereur par les religieuses de ce temps-là. Tout comme Jean le Sage et Gérin Lajoie d'aujourd'hui, peut-être. Mais, oui, il y a un mais. En France, en 1881, l'enseignement d'État devint purement laïque. Le gouvernement fit défense aux religieux d'enseigner dans les écoles d'État. Napoléon Ier était mort, voyez-vous. Alors les parents de France, qui voulaient faire instruire leurs enfants sur la religion, dure payée d'autres écoles, non subventionnées par l'État. Ils payaient leurs écoles d'État par les taxes et payaient leurs écoles confessionnelles par d'autres sacrifices. Double charge pour les enfants qui avaient, pour les parents qui avaient la foi. C'est que voyez-vous, ma bonne sœur, les garanties étaient disparues. Les Napoléons, les Jean le Sage et les Général Lajoie, si catholiques, avaient été remplacés par des francs-maçons, pas catholiques du tout. En France, en 1901, l'histoire continue. Le gouvernement alla même jusqu'à chasser les religieux. Défense leur fut faite d'enseigner dans les écoles séparées. Et c'est ainsi que les religieux ont quitté la France. C'est ainsi que les petits Français n'apprirent plus leur catéchisme et perdirent la foi. À la grande joie des francs-maçons, qui se frottèrent les mains de contentement, ils avaient réussi leur plan sur les écoles. Les notes que je vais vous donner maintenant ont été prises dans une brochurette intitulée « Les écoles scolaires, les réformes scolaires et la franc-maçonnerie », écrite par M. Lemieux, R.J. Lemieux, un Canadien français qui a démasqué les francs-maçons de Montréal en 1910. M. Lemieux, en février 1908, assistait à une assemblée du Laurier Political Club, cercle juif, où Godefroy Langlois a déclaré, aux grands applaudissements de l'assistance, ceci. Dans le gouvernement de cette province de Québec, où la majorité est canadienne-française, dit-il, l'honorable M. Weir est le représentant de la minorité, c'est-à-dire des protestants. En conséquence, je puis vous assurer de son estime pour les juifs, qui sont aussi de la minorité. Il a été un brillant avocat des réformes éducationnelles, et je puis prédire que bientôt cette cause triomphera sur toute la ligne. Sir Wilfrid Laurier est arrivé au pouvoir au moment des difficultés scolaires du Manitoba, disait Godefroy Langlois, et il continuait. Depuis, Sir Wilfrid Laurier a extirpé les idées mesquines et étroites, fruit des préjugés de race et de religion. Par sa conduite et son triomphe, dit-il, il a démontré clairement qu'on ne doit pas mêler la religion et la politique. Voilà ce que disait Godefroy Langlois, alors directeur en chef du journal Le Canada. Et de son côté, M. Wire, l'honorable Wire, déclarait que Godefroy Langlois prenait un grand intérêt à la cause de l'instruction publique. Et M. Wire et Godefroy Langlois étaient tous deux frères trois points de la loge L'Émancipation. Et les réformes scolaires réclamées par ces deux frères trois points francs-maçons n'étaient autres que les réformes scolaires réclamées par la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France. Surtout, il réclamait un ministère de l'instruction publique. M. Wire, Godefroy Langlois et leurs camarades de la loge L'Émancipation doivent exécuter une danse joyeuse dans leur tombe maintenant que Jean le Sage et Gérin Lajoie ont décidé de concrétiser leurs vœux les plus chers. Et M. Lemieux nous assure que les francs-maçons prêchaient dans leur loge tant qu'ils pouvaient l'institution d'un ministère de l'instruction publique dans la province de Québec. Et que s'ils n'ont pas réussi, c'est à cause de la réaction qui s'est faite. Le peuple, dit M. Lemieux, a compris que le but véritable des réformateurs n'était pas de lui procurer ce qui lui permettrait de gagner sa vie sans travailler, mais bien un moyen de mettre la main sur notre système éducationnel et d'instituer ici, dans le Québec, le même système dont le Grand Orient de France s'est servi pour déchristianiser la France, ce à quoi il a réussi en partie avec les conséquences que l'on voit actuellement en France. Vers 1775, une ligue de l'enseignement fut fondée en France. Et c'est en 1880 que l'enseignement confessionnel fut banni des écoles d'État en France. En 1885, au 5e congrès de cette ligue de l'enseignement, fut votée l'immédiate application des lois sur l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'école. Vous avez compris, l'école obligatoire, l'école gratuite et l'école laïque. Une ligue de l'enseignement fut fondée au Canada. M. Herbert, membre du Conseil général de la Ligue de l'enseignement de France, est venu à Montréal vers 1910 pour fonder une ligue de l'enseignement au Canada comme celle de la France. Une ligue qui relevait de la France, de la Ligue de France, et qui avait comme elle dans son programme l'école obligatoire, l'école gratuite, l'école laïque et le ministère de l'instruction publique pour la province de Québec. Mes chers amis, le ministère de l'instruction publique, le ministère de l'éducation qui s'en vient, mettra entre les mains du gouvernement tous les pouvoirs contre les parents et les évêques. Les écoles, de plus en plus centralisées, éloignent de plus en plus les enfants de leurs parents. Une propagande maudite organise toutes sortes de forums et de rencontres où les enfants critiquent leurs parents jusqu'à la télévision. C'est un sabotage systématique de l'autorité paternelle qui vient de Dieu. Les francs-maçons ont bien réussi chez nous. Nos députés et ministres de Québec concrétisent le rêve des francs-maçons à la perfection. Mais dites-moi, dans les hautes sphères de notre société, ne pourrait-il pas se trouver une couple, rien que ça, une couple de bons soldats du Christ qui seraient prêts à se sacrifier tout entier et à sacrifier même des œuvres pour sauver la foi de nos enfants de demain, car les œuvres qui sacrifient la vérité ne valent rien. Qu'on me permette de le dire avant qu'il soit trop tard, le peuple est de plus en plus déçu de la démission des grands et il la voit de plus en plus clairement, cette démission. Les octrois à nos institutions religieuses n'ont-elles pas égaré leur jugement, le jugement de nos institutions religieuses, parce que M. Duplessis avait promis 50 000 piastres d'octroi, une salle paroissiale était retirée aux pauvres créditistes qu'il avait pourtant payé. On a vu cela souvent. On croyait bien faire peut-être, mais il semble qu'en telles circonstances, on mettait plus de confiance dans l'argent des politiciens que dans la valeur de la vérité. On était prêt à sacrifier la vérité pour l'argent. Ce n'était pas bien catholique, vraiment. Les octrois aux hôpitaux et les octrois aux écoles n'ont-ils pas été l'antichambre de la confiscation des hôpitaux et des écoles par le gouvernement? Maintenant, les hôpitaux et les écoles ne sont plus la propriété des religieux et religieuses. Le gouvernement s'en empare graduellement et bientôt, les religieuses et religieuses partiront, chassées par la force ou la ruse, ce qui revient aux mêmes. Première station, les octrois. Deuxième station, la confiscation. Le plus désastreux de tout cela, c'est la résignation des religieux à cet état de choses. Comme lorsqu'ils disent, il faut se mettre à la page, nous aurons des garanties avec le ministère de l'éducation qu'on nous prépare. Et avec des chefs comme Jean le Sage et Gérin Lajoie, il n'y a aucun danger, dit-on. Ces paroles, mes amis, sont une autre démission. Parce que ça ne nous fait pas trop mal à nous maintenant, eh bien, on est prêt à sacrifier encore les principes. Cette fois, c'est le principe de l'autorité des parents et des évêques qui est sacrifié complètement, saboté par le ministère de l'Éducation. Et cet autre principe du droit des enfants à toutes les garanties possibles de recevoir l'instruction religieuse. Le marchandage est odieux en matière de vérité et il ne faut pas se surprendre qu'il produise des fruits empoisonnés. Nous avons besoin de toutes les forces de notre société catholique pour affronter les francs-maçons ligués avec les journaux, les politiciens, la télévision, les journaux, les communistes. Les parents resteront-ils seuls à se battre contre cette meute déchaînée contre eux et leurs enfants? Le journal Vers demain qui vous a parlé, mes amis, vous donnera en article cette causerie. Je vous invite à lire ce journal-là, il devrait rentrer dans toutes les familles, afin que toutes les familles soient renseignées sur ce qui se passe dans les coulisses de la politique.